Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père et de la part de son Fils, Jésus le Christ, son Fils, mais aussi notre frère et notre Sauveur. Pour ouvrir ce culte, nous chantons le premier répond que nous trouverons au début du psautier français, et qui s'intitule « Réjouissons-nous au Seigneur ». Prenez place. En ce premier dimanche de l'Avent, marqué symboliquement par la première bougie allumée, nous vous souhaitons la bienvenue à chacun, chacune dans ce temple, et peut-être que pour certains, c'est la première fois. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais du site internet ou des réseaux sociaux. Nous saluons particulièrement les amis qui nous rejoignent de divers pays. Merci de votre fidèle présence et de votre précieux soutien malgré la distance. Nous accueillons avec joie Sarah Kim, organiste titulaire de l'Oratoire du Louvre, qui accompagne ce culte aujourd'hui. Nous associons particulièrement à ce temps de culte les familles éprouvées actuellement par le deuil de leurs proches en cette période difficile. Cette période de l'Avent est ce temps liturgique qui nous invite à accueillir un commencement qui a déjà eu lieu, mais qu'il faut pourtant préparer. Et tous les réponses de notre liturgie nous y convient. En cette période si inquiétante de pandémie et de renforcement des consignes sanitaires qu'il nous faut continuer de prendre au sérieux, le temps de l'Avent vient restaurer et redynamiser notre espérance, notre confiance et surtout notre joie, moteur de notre foi. Louons l'Éternel avec les mots du psalmiste. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Puisqu'il s'est attaché à moi, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Amis, frères et sœurs, je vous invite à poursuivre cette louange en prenant maintenant le chant du psaume 91 et nous chanterons les strophes 1, 3 et 5. Je vous invite à vous lever.
Près de toi quand je
Prenez place. Écoutons encore la volonté de Dieu à notre égard. Ne cessez pas de vous aimer les uns les autres. Rappelez-vous que vous devez bien accueillir ceux qui viennent chez vous. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison comme si vous étiez en prison avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez maltraités de la même manière qu'eux. Respectez tous les liens qui vous unissent. Ne vous laissez pas dominer dans votre conduite par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit « Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ». Prions ensemble. Éternel, nous sommes devant toi et nous attendons. Et qu'est-ce que nous attendons? Qui attendons-nous? À quoi nous attendons-nous? Les aveugles ne voient toujours pas. Les boiteux ne marchent pas mieux. Les prisons sont pleines et les pauvres mendient. L'injustice subsiste. Qui attendons-nous? Jésus-Christ? Mais il est déjà venu. Il est déjà venu, il a habité parmi nous, mais il attend maintenant de nous que la lumière soit lumineuse, l'équilibre équitable, la justice juste. Il attend de nous ce que nous attendons de lui. Éternel, donne-nous la force et le courage d'être ses témoins, et de répondre ainsi à ton attente. Amen. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Voici ce que dit Jésus, reprenant une prophétie d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient leur ouvrir les yeux. Que tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Nous restons debout pour confesser notre foi avec le texte emprunté au pasteur Charles Wagner. Je crois en Dieu, je crois qu'il nous a aimés le premier, avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, il nous a aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, je crois que Dieu nous a aimés d'avance et portés, car nous sommes son espérance et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Je crois que malgré l'immense peine qu'il subit par nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore, toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, je crois que Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous. Je crois que Dieu, en Jésus-Christ, nous aime victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira avec tous les calices. Il combattra tous les combats. Il descendra dans toutes les tombes jusqu'à la fin, et la fin sera bonne. Oui, je crois que Dieu est amour et que son esprit nous anime et nous porte. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Prenez place. Nous lirons ce matin un extrait du livre du prophète Ésaïe au chapitre 61, tout d'abord les versets 1 à 3, puis les versets 10 et 11. Le souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres. Pensez ceux qui ont le cœur brisé. Proclamez aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Proclamez pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance. Consolez tous ceux qui sont dans le deuil. Rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil, mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre, une huile de gaieté au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation du Seigneur, pour montrer sa splendeur. Je trouverai la joie dans le Seigneur. Je serai plein d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Comme le marié, tel un prêtre se coiffe d'une parure splendide, comme la mariée s'orne de ses atours. En effet, comme la terre fait sortir son germe et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Merci pour ta parole. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, je vous invite maintenant à prendre le cantique numéro 87. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 5. Et je vous invite à vous lever. Place. Prions. Père, Quand nous sommes rassemblés à ton appel et conviés à écouter ta parole, c'est toi-même que nous demandons à toi. Notre vie est trop petite pour t'accueillir, notre cœur trop irrésolu pour te servir, notre intelligence trop courte pour mesurer ton amour, notre volonté trop faible pour aller jusqu'à ton royaume. Mais tu as choisi de faire ta demeure en nous et parmi nous. Tu as envoyé ton Fils planter sa tente sur la terre ingrate de nos vies. Alors nous t'en prions. Rends-nous toi-même habitable pour ta présence, accueillant pour ton esprit et surtout attentif à ta parole. Amen. Amis, frères et sœurs, le temps de l'Avent, composé de 4 dimanches qui précèdent la fête de Noël, est illustré symboliquement par la couronne de bougies que je pensais trouver sur la table de communion, mais qui se trouve sur le piano. Ces 4 semaines sont un temps privilégié pour approfondir notre foi, élargir notre espérance, soigner notre amour de Dieu et de notre prochain. Aujourd'hui, nous entendons le prophète Ésaïe chargé de dire ce qu'est ce salut de Dieu pour tous les hommes, et d'en décrire les effets. Et pour bien comprendre ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, il est important de se souvenir du contexte qui a suscité la rédaction de ce livre. Et quand on parle d'Ésaïe, il s'agit du premier des grands prophètes qui vivait à Jérusalem au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et le livre qui porte son nom est un regroupement de 3 ouvrages d'auteurs et d'époques différentes qu'on appelle habituellement le premier, le second et le troisième Ésaïe. Et nous sommes attachés au livre de ce prophète car ses paroles sont puissantes. C'est à partir de ce livre que nous connaissons les principaux oracles d'Ésaïe, que nous lisons souvent dans cette période de l'Avent, comme l'oracle de l'Emmanuel, Dieu avec nous, par exemple au chapitre 7, ou encore l'annonce de l'ère messianique. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, sur ceux qui marchaient dans l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, au chapitre 9. L'oracle messianique d'un monde nouveau, un rameau sortira de la racine de Jessé, le loup habitera avec l'agneau et un enfant les conduira, au chapitre 11. Et puis à partir du chapitre 40, Ésaïe annonce la fin de la détresse et le retour du peuple d'Israël sur la tête la terre des ancêtres, présentée aussi comme un nouvel exode. Enfin, à partir du chapitre 56, Ésaïe se penche sur la situation à Jérusalem peu de temps après le retour d'exil. On y trouve alors les textes sur le vrai jeûne, le tableau de la montée des peuples vers Jérusalem, et en particulier l'oracle sur l'Esprit qui consacre son Messie pour le service des pauvres, au chapitre 61, ce que nous venons d'entendre. Oracle qui sera repris par Jésus lors de sa première prédication à la synagogue de Nazareth, au tout début de son ministère, texte que nous trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. Les prophéties d'Ésaïe s'enracinent dans l'histoire dramatique du peuple d'Israël. Le peuple vient de vivre l'exil et maintenant il est en route de nouveau vers Jérusalem où il va pouvoir renouer avec l'ensemble de ses traditions et de sa foi. Certains d'entre eux sont déjà arrivés sur place, mais c'est le peuple tout entier qui est promis à un renouveau, véritable nouvelle naissance pour proclamer la gloire de Dieu. Alors lorsque nous lisons les textes bibliques, un choix s'impose à nous. Ou bien nous les lisons comme des textes anciens sans qu'il y ait aucune application de notre part, ou bien ces textes deviennent pour nous une parole de Dieu pour chacune de nos vies, une parole dans laquelle nous pouvons y décrypter un message, au fond, pas si caché. Et lorsque nous lisons ou que nous entendons ce texte du prophète Ésaïe, comme ce matin, nous réalisons que ce texte ne nous ramène pas seulement au passé d'Israël, mais qu'il nous parle de la mission du peuple de Dieu aujourd'hui ou la mission de l'Église universelle. Alors posons-nous la question de savoir comment ce passage ou ce message relance l'Église d'aujourd'hui dans sa mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Et au fait, de quel salut s'agit-il ? En fait, la réponse est donnée par le prophète Ésaïe lui-même. Il emploie trois images qui permettent au lecteur, qui nous permettent, de recevoir d'une façon plus concrète ce salut promis par Dieu à son peuple. La première image, c'est le salut comme un vêtement de fête ou une splendide parure. J'ai la mission de remplacer leur air pitoyable par un habit de fête. Et voilà la première indication qui nous est donnée. Pour que le salut de Dieu touche chaque être humain, il faut un porte-parole distinctif, représentatif, comme peut-être le prophète Ésaïe habillé de la joie de Dieu qui éclaire chaque personne qui l'approche. J'imagine son physique rayonnant et son visage dégageant la joie. Et lorsque nous parlons du christianisme, lorsque nous témoignons de la foi qui est la nôtre, lorsque nous parlons de Dieu, nous pensons certainement à mentionner la fidélité, la compassion, l'amour, la confiance. En tout cas, ce sont les mots qui reviennent le plus souvent dans les pauses spirituelles ou dans les partages bibliques. Mais il y a un autre mot que nous oublions souvent et qui est celui de la joie. Alors cela nous renvoie sûrement à notre attitude. Quel visage va avoir l'Église universelle comme annonciatrice de salut ? Sans parler de l'Église universelle, prenons comme témoin notre paroisse, notre Église locale. Quel visage est-ce qu'elle a ? Incarne-t-elle le visage de la joie à travers son témoignage ? Oh, je ne parle pas forcément du cadre magnifique dans lequel se déroule le culte, ni de la beauté de la liturgie, mais de l'implication de chacun de ses membres à faire rayonner ce message et à en vivre, à l'exprimer. En particulier de la part de celles et ceux qui ont accepté de venir ici pour l'accueil de l'autre, la défense du plus petit, pour être la voix des sans-voix. Et la joie dont je parle n'a rien à voir avec un contentement superficiel, mais il s'agit de cette joie qui est née un dimanche de Pâques, faite de notre humanité aimée de Dieu, libérée du poids de nos échecs et de nos zones d'ombre. Autrement dit, faite de notre humanité composée d'hommes et de femmes, debout en éveil, telles des sentinelles, sauvées de l'indifférence, sauvées de la médiocrité, sauvées des angoisses mortifères. Notre Église locale est-elle soucieuse de l'espérance qu'elle est censée annoncer au monde ? et ce, malgré les difficultés qu'elle rencontre, les oppositions qu'elle génère, avec une théologie libérale qui en chiffonne plus d'un, avec la difficulté de croire qu'elle est elle-même au bénéfice de cet amour premier de Dieu pour tous. Il y a sûrement des progrès à faire, mais nous sommes en chemin. Ésaïe pose à chacun et chacune le défi de la joie que donne le salut en Dieu. Et par salut, il faut comprendre le secours. Le secours, comme il est écrit au verset 10, « Je trouverai la gaieté, la joie, la jovialité, la jubilation selon les traductions proposées. Dans le Seigneur, je serai plein d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du secours ou du salut. » Alors l'invitation est faite de se réapproprier cette bonne nouvelle de la joie. Même si nos vies restent habitées par des soucis anciens ou nouveaux, même si la douleur du deuil nous envahit régulièrement, et si celles et ceux qui sont à côté de nous flanchent à cause de la trop grande souffrance à supporter, alors c'est nous qui croirons avec eux et peut-être même pour eux. C'est nous qui prierons avec eux et peut-être même et surtout pour eux s'ils ne peuvent plus le faire. Et c'est nous qui prendrons le relais de leur espérance momentanément brisée. D'où l'importance de tous les temps de ressourcement que nous vivons tout au long de l'année, même si en ce temps de pandémie, il reste encore le retour des repas paroissiaux tels que nous les aimons organisés. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. Et il y a toutes les autres possibilités de faire des provisions de force, de résister pour résister quand le temps de l'épreuve arrive. Et j'en profite pour vous dire que vous êtes accueillis cet après-midi à Parole d'amour, justement une parole pour les temps de deuil. Et de garder ainsi chevillé à notre cœur et à notre corps ces promesses synonymes de bonnes nouvelles. Rappelez-vous, Jérémie, je changerai leur deuil en allégresse. Au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie. Et le Christ ne fait-il pas cette promesse à ses disciples ? Votre tristesse sera changée en joie. L'autre image, c'est celle de la germination. Dieu fera germer le salut et la louange devant l'ensemble des nations. Recevoir le salut, le secours de Dieu pour nous-mêmes entraîne un processus de germination, exactement comme le ferait une graine qui a besoin de temps et d'attention pour pousser. Au fond, notre foi en Dieu n'est pas si différente. Croire que Dieu nous aime et nous sauve de notre médiocrité par cet amour sans condition, cela ressemble à une lente germination d'une semence de vie. Et du coup, la lenteur devient ici comme nécessaire. Et à partir du moment où nous acceptons que Dieu entre dans notre histoire personnelle, alors d'une part, il accepte de marcher à notre pas, et d'autre part, nous acceptons de nous laisser accompagner chacun à notre rythme. Nous acceptons aussi que Dieu accompagne chacun de nos rythmes différents. Notre cheminement dans la foi se fait d'avancées rapides, en recul protecteur, parfois même en piétinement, à l'image de nos hésitations et de nos recherches. Le secours de Dieu, le salut de Dieu, ou encore Dieu qui nous aime le premier, s'implante dans notre vie comme une force invisible, souterraine, fragile comme un enfant dans les premières heures de sa vie, mais devenant robuste et s'enracinant jour après jour pour enfin éclore au grand jour et monter vers la lumière. Et là, peut-être voyons-nous apparaître la promesse d'une magnifique récolte. La venue du secours de Dieu ou du salut de Dieu dans chacune de nos vies, au sein même d'une communauté aussi qui a besoin d'un temps de maturation, eh bien, toute cette maturation d'enracinement discret, profond, avant d'éclore et d'éclater sans complexe au grand jour. Cela prend du temps. Et cette parole du prophète Ésaïe peut donc nous encourager et même à nous consoler de nos lenteurs parfois insupportables quand on est un peu vif et qu'on veut toujours aller de l'avant. Et même si tout ce que nous faisons dans l'Église en annonçant le salut de Dieu ne porte pas les fruits aussi vite et aussi magnifiquement qu'on aurait souhaité. Mais le texte d'aujourd'hui nous invite à nous souvenir qu'un germe d'amour a commencé de pousser dans le creux de nos rencontres et de nos témoignages, au sein de nos engagements et de nos différentes actions. Nous ne voyons pas le résultat final, mais tout cela grandit patiemment. Troisième image, c'est celle du térébinthe, l'arbre de la justice. Et cette image nous renvoie à une impression de force, de solidité, de solidarité aussi. Cet arbre a un petit côté inébranlable. Cet arbre planté dans le jardin du Seigneur évoque le jardin d'Éden, rappelle aussi cette mise en ordre du chaos initial. Il parle de ce jardin cultivable et cultivé pour nourrir ceux qui y habitent. Ce jardin aujourd'hui saccagé par l'orgueil et la folie des hommes. Au temps d'Ésaïe, ces paroles avaient une résonance particulière. Les pauvres, les prisonniers, les désespérés pouvaient entendre qu'ils n'étaient pas oubliés de Dieu. Plus tard, Jésus est venu accomplir cette prophétie par la guérison et l'annonce publique du pardon des péchés allant jusqu'au don de sa propre vie. Mais maintenant, c'est à nous de montrer aux pauvres, aux prisonniers, aux désespérés qu'ils ne sont pas oubliés de Dieu. Et comment allons-nous apporter ce secours et annoncer ce salut, sinon en portant à notre tour une attention particulière et concrète aux faibles de ce monde, aux découragés, aux blessés de la vie, parce que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les difficultés que vivent un trop grand nombre de nos prochains en nous enfermant douillettement dans notre tour d'ivoire. Quelle est la mission de l'Église? Mais elle n'a pas d'autre mission que celle de se tenir auprès de celles et ceux qui se croient oubliés de Dieu et de son amour. Soutenir celles et ceux qui sont laissés de côté afin que chacun à nouveau se découvre ou se redécouvre, regardé, reconnu, aimé. Nous pouvons nous sentir à juste titre découragés par l'ampleur de cette tâche, mais nous pouvons manifester notre solidarité et aussi notre justice par une quantité de petites choses sur place, là où nous sommes, de main en main, d'association en association, de fraternité en fraternité. Au fond, c'est tout ce qui nous est demandé. Mais ce que nous appelons le travail diaconal de l'Église, tout ce que nous appelons aussi le christianisme social, qui s'enracine de toute façon dans un christianisme spirituel, pourrait se résumer de cette façon: accueillir et accompagner celles et ceux qui ont besoin d'une oreille attentive, d'une écoute compatissante, d'un geste de tendresse, d'un regard sans jugement. Maintenir le lien fraternel avec celles et ceux qui ont besoin de notre temps et aussi de nos idées pour refaire des papiers, trouver de quoi manger, retrouver du travail, un logement, donner du réconfort, reprendre confiance et par voie de conséquence, trouver une place dans la vie sociale, retrouver une dignité dans leur vie d'homme, de femme et d'enfant. Un habit de fête, un germe de vie, un arbre planté dans un jardin, organisé comme un point d'ancrage et de ralliement, telles sont les images proposées aujourd'hui par Ésaïe pour cette entrée dans l'Avent, où nous proclamons que le Dieu des prophètes et le Dieu de Jésus-Christ a fait sienne l'aventure humaine. Il a même choisi de s'y risquer, tout simplement, parce que selon la confession de foi du pasteur Wagner que nous avons partagée tout à l'heure, Dieu nous a voulu et nous veut encore. C'est peut-être cela, être témoin de son incorrigible amour. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, je vous invite à prendre maintenant le chant du cantique 92. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3, et 4. Et je vous invite à vous lever.
Pour sauver le jour.
Prenez place. Et je cède la parole maintenant à Aurore Saglio, présidente du Conseil presbytéral, pour quelques mots d'annonce.
Merci Agnès. Tu as déjà annoncé parole d'amour.
Oui.
Bonjour à tous. Au nom du Conseil presbytéral, donc juste après le culte, vous pouvez rester partager ce que vous aurez apporté en termes de déjeuner. Mais si vous n'avez rien apporté, vous pouvez toujours courir à la boulangerie ou au restaurant d'à côté, ou simplement partager ce que d'autres auront apporté, parce qu'on a toujours trop. Donc venez partager un déjeuner avec Béatrice, parce qu'Agnès doit filer en province. Et après, Béatrice et vous-même, ceux qui seront restés à ces paroles d'amour, travailleront sur des textes qui nous parlent de l'expérience du deuil. C'est important de pleurer avec ceux qui pleurent. Ce que m'ont rappelé nos deux pasteurs, c'est quand elles ont pris leur ministère, on promet, si je comprends bien, de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc cet après-midi, parole d'amour. Et vraiment, restez déjeuner. Puis si vous ne pouvez pas rester déjeuner, revenez pour parole d'amour ou inversement. Le reste de la semaine, jeudi, midi, pause spirituelle avec Agnès. J'allais dire, c'est un classique. Également, beaucoup de cours de grec, hébreu, toute la semaine. Regardez la newsletter. Surtout, vendredi et samedi, c'est la vente de l'oratoire. Donc, souvenez-vous, l'année dernière, on n'en a pas eu. Donc, pour les nouveaux, la vente de l'oratoire, le temple est rempli de stands, de vente, d'objets que vous avez bien entendu apportés hier et aujourd'hui. Si vous ne les avez pas apportés, vous pouvez toujours les apporter à la maison presbytérale. Mais c'est un grand moment de festif aussi, de solidarité et festif. Vendredi et samedi, donc venez, invitez vos amis. Il y a des invitations qui sont au fond du temple. Prenez-les, il faut vraiment avoir du monde parce que si c'est solidaire, ça doit être aussi joyeux. Donc on doit être nombreux. Si on est 4 ou 5 à se lamenter et à attendre le chaland, c'est pas la joie qu'on annonce, ni la solidarité. Donc vraiment, venez tous, même si vous n'achetez rien, venez. Mais il y a plein de choses, vous serez sûrement tentés. C'est la difficulté. Dimanche prochain, Dominique Hernandez du Foyer de l'âme sera en chaire. Elle devait venir ce dimanche, mais alors ce dimanche, c'est la fête de l'amitié du Foyer de l'âme. C'est aussi celle du Pentemont. Donc, on fait tous nos fêtes, donc n'hésitez pas à aller à celle du Foyer de l'âme, de Pentemont ce week-end. Par contre, le week-end prochain, vous ramenez tous ceux de Pentemont et de Foyer de l'âme ici à l'Oratoire du Louvre. Petite demande de bénévolat. Il y a un poste qui n'existait pas à la vente de l'oratoire. Donc tous les bénévoles, Jean-Luc Buisson nous a très bien organisé ça. Il y a bien un stand de vêtements avec les bénévoles du stand de vêtements, un stand boissons, etc. Il y a un stand qui n'est pas rempli, qui n'est pas un stand, qui est le contrôle des passes sanitaires. Donc je fais un appel ici. Ça va être tout vendredi après-midi, tout samedi. Le lundi d'après, on a aussi un hommage à Bernard Cotteret. Il nous faut contrôler les passes sanitaires. Ça peut être joyeux, je vous promets, puisque vous avez le prénom, vous avez la date de naissance, donc vous pouvez souhaiter un bon anniversaire, vous pouvez dire bonjour madame X. Donc vraiment, venez. Ça ne prendra pas plus de temps que le temps de la batterie de votre téléphone. Donc en général, au bout de 2 heures, vous ne pouvez plus contrôler. Mais si certains d'entre vous peuvent filer un coup de main, s'il vous plaît, samedi, dimanche et lundi, au contrôle des passes sanitaires, ça nous serait extrêmement utile et de le faire de façon joyeuse. Voilà, c'est un poste de bénévolat un peu spécifique à la situation. Mais je vous en prie, signalez-vous. Je suis là, je prends vos noms, je vous fournis même un téléphone s'il le faut pour contrôler les passes sanitaires. Dernier point d'annonce, il y a quelque chose d'un peu suranné, mais qu'on aime beaucoup à l'Oratoire du Louvre, c'est une enveloppe d'offrande que vous retrouverez dans vos psautiers. Nous sommes à la première bougie allumée sur le piano, premier dimanche de l'Avent, ce qui veut dire compte à rebours pour notre trésorière qui est là. Il nous faut finir l'année. C'est suranné, mais c'est de tout temps. L'Église ne vit que de dons. Donc vous n'êtes pas obligé de remplir l'enveloppe d'un chèque au nom de l'apérole. Il y a un cachet d'ailleurs qui vous dit à quel nom il faut mettre le chèque. Sinon vous avez le don joyeux en ligne, vous avez le terminal de paiement, vous avez tout ce que vous voulez. Ce qui est important, comme le rappelait notre président de fédération, vendredi soir, nous fêtions les 20 ans de la fondation du protestantisme. Donc nous avons eu tout un colloque sur croire et donner. Il y avait Monsieur Sauvé qui était là aussi, du rapport Sauvé, mais qui était là en tant que président des apprentis d'Auteuil. La conclusion, c'est « Y a-t-il un don spécifiquement protestant ?» Et la conclusion, c'est « Le don protestant est un don libre, responsable et solidaire. » Donc vous êtes vraiment libre. Vous savez que nous sommes tous sauvés. Vous avez entendu Agnès, pour comprendre sa prédication, il faut savoir que nous avons eu un synode régional dimanche dernier. Et c'est vrai que la notion de salut et de mission est quelque chose qui est un peu compliqué en ce moment dans l'Église unie, parce que nous avons toujours été pluriels, mais là on a l'impression d'être de retour avant la lumière. Donc je ne sais pas qui a éteint la lumière, mais Agnès insiste en disant que cette notion de mission, cette notion de liberté, y compris de liberté de donner, hein, nous ne sommes pas dans un système de dîmes, est important, mais il faut le faire aussi en conscience, responsable et solidaire. Merci à tous et bon dimanche.
Éternel Dieu de la vie, nous te louons. Nous te disons notre joie de pouvoir t'appeler notre Père. Tu nous aimes tels que nous sommes, chacun de nous est important à tes yeux. Tu es le seul à faire pleinement confiance à chacun d'entre nous et à espérer en nous, même quand tout est mort, même quand il n'y a plus d'espérance. En nous donnant ton Fils, tu nous montres ta tendresse. Il est né au monde pour que nous vivions de son esprit. Il est mort et ressuscité pour que les hommes deviennent tes enfants et que notre terre devienne fraternelle. Ensemble, ici et maintenant, Nous te chantons notre reconnaissance et nous prendrons le répond numéro 1 par toi pour une fête dans la nouvelle liturgie trouvée dans le psautier français. Par toi pour une fête, je vous invite à vous lever.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés ». Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Éternel Dieu de la vie, toi qui nous donnes aujourd'hui notre pain, tourne nos regards et nos cœurs vers celles et ceux qui dans notre monde n'ont ni pain, ni maison, ni justice, ni espoir. Pardonne-nous nos offenses et tout spécialement notre volonté insatiable de ne manquer de rien alors que tant de sœurs et de frères manquent de tout. Nous te prions pour celles et ceux qui chancellent dans leur malheur, celles et ceux que la souffrance rend injustes, celles et ceux qui meurent dans l'indifférence du plus grand nombre. Mais aussi celles et ceux qui espèrent contre toute espérance et qui attendent la parole ou le geste qui les rendra à la vie. Nous te prions pour celles et ceux qui ignorent la pitié, qui se moquent de la faiblesse, pour celles et ceux qui restent prisonniers de leur désespoir. Nous te présentons les peuples déracinés, opprimés, les peuples meurtris par la guerre et aussi celles et ceux qui vivent dans la peur d'être arrêtés. Et nous te prions pour l'Église universelle pour qu'elle s'arrache à la fascination du pouvoir et qu'elle se rende libre pour le service des hommes. Ainsi, éternel Dieu de la vie, nous œuvrerons avec toi pour que ton règne vienne sur la terre comme au ciel et que ta volonté d'amour soit faite dans le monde. Maintenant, tout est entre tes mains. Nous avons préparé la table, viens toi-même la présider. Voici nos cœurs mal préparés, nos repentirs insuffisants et notre foi si peu active. Mais donne-nous dans ce repas ta libération, ta présence et ta paix. Veuille, par l'action de ton esprit, nous donner communion avec le corps et le sang de ton Fils. Et comme la nourriture fortifie notre corps et comme le vin réjouit notre esprit, que ce pain nous donne la force qui vient de toi et ce vin la joie que tu veux pour nous. Que ce repas nous annonce le royaume que tu nous charges de proclamer et que nous célébrons lorsque nous te disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Jésus, ta voix.
Venez, car tout est prêt, dit le Seigneur. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais où lui-même nous donne nourriture. Voici la table que nous avons dressée, mais que lui-même préside. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Voici le pain dont nous avons besoin et que lui-même distribue. Nous sommes tous invités.
Pour la simplicité de ce pain et de ce vin. Béni sois-tu, notre Père. Voici le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Voici la coupe de la nouvelle alliance. Celui qui met sa confiance en Jésus-Christ a la vie éternelle. nous prions ensemble. Pour la simplicité de ce pain de vie, béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la simplicité de ta présence en Jésus, béni sois-tu, Seigneur. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice, de paix et d'amour. Apprends-nous le partage et fais de nous des ouvriers de ton royaume.
Et nous vous invitons à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. L'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel fait resplendir sur vous sa lumière. Qu'il vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix.